Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Après nous avoir raconté les coulisses de 50 années de terrain en Arménie, nous retrouvons Jean-Pierre Meille dans cette deuxième partie d'émission, dans laquelle il va revenir sur l'histoire de ce pays. Au carrefour de l'Orient et de l'Occident, l'Arménie a traversé les siècles sous l'influence de grands empires, l'empire perse, romain, byzantin ou encore arabe. Et pourtant, malgré ces dominations successives, l'Arménie a su préserver une identité singulière portée par sa langue, ses traditions et par le christianisme dont elle fut le premier État à faire sa religion officielle au IVe siècle. Alors comment cette nation a traversé les siècles tout en conservant son originalité culturelle dans la région? Quels ont été les grands moments qui ont façonné son histoire jusqu'en 1375? Jean-Pierre Meille est à notre micro pour y répondre. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, grand spécialiste de l'histoire et de la civilisation arménienne. Alors vous allez nous apporter quelques éclairages sur cette Arménie prémoderne, entre grandeur et épreuve, influences étrangères et résistances culturelles. Aujourd'hui, en 2025, la situation de l'Arménie est marquée par des tensions géopolitiques, des défis sécuritaires importants. Mais pour saisir pleinement cette nation, il faut comprendre son passé. Et l'histoire de l'Arménie, c'est d'abord l'histoire d'une très longue érosion, vous dites. L'état que l'on connaît aujourd'hui d'Arménie n'a plus rien à voir avec sa superficie d'hier.
Oui, disons qu'aujourd'hui, l'Arménie fait un peu moins de 40 000 km², à peu près comme la Bretagne, si vous voulez, moins de 40 000 km². Mais elle faisait 10 fois ou 12 fois plus autrefois, encore au 1er siècle avant notre ère. Donc ça, c'est une érosion considérable. Alors, pour bien comprendre les faits, notamment l'endurance de cet État, il faut comprendre la géographie. C'est-à-dire, la géographie réelle, c'est que l'Arménie est une sorte de massif montagneux, ou bien d'île montagneuse, de forteresse, qui est entre l'Anatolie, c'est-à-dire l'essentiel du territoire de la Turquie actuelle, et l'Iran. Hein, elle se trouve à cet endroit-là. Et des deux côtés, elle domine la région voisine de plus de 1000 mètres d'altitude. Donc on a donc des chaînes bordières qui sont comme les murs de la forteresse. Au nord, par exemple, les Alpes pontiques, au sud, les massifs du Kurdistan, qui sont comme des murailles. Puis derrière les murailles, on a un plateau qui est de 1000 à 2000 mètres d'altitude. Et dans le plateau, il y a les tours de la forteresse qui sont des grands volcans. Alors, le plus célèbre d'entre eux est le mont Ararat, qui fait 5165 mètres.
Qui était déjà cité dans la Bible.
Oui, qui était déjà cité dans la Bible. Et puis, il y a la géographie de la légende. Alors, la géographie de la légende, elle naît des premières explorations des Grecs, qui vont alors découvrir des pays lointains. Ils partent à l'ouest de la Méditerranée, ils découvrent les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire Gibraltar, et puis ils découvrent la Grande Grèce, et puis ils découvrent... Bon, mais aussi, ils partent à l'est, au nord-est exactement, et ils découvrent la mer Noire. Et bientôt, ils vont établir, à peu près au 8e siècle, une carte du monde dans laquelle le monde est un seul continent, avec tout autour le fleuve Océan, qui est immense, et au milieu, la Méditerranée. Et ils essayent de situer, évidemment, l'Arménie, la Géorgie, le Caucase sur cette carte. Eh bien, sur cette carte, le Caucase est tout à fait au nord du monde. C'est-à-dire que derrière, il y a le fleuve, l'océan, il n'y a rien. Et donc, l'Arménie, la Géorgie passent pour des États du nord. Alors bien sûr, par la suite, on va revenir à des idées plus raisonnables. C'est-à-dire que la vraie géographie des anciens, elle procède de Strabon. Strabon qui est un contemporain d'Auguste, qui était né en Asie mineure et qui est capable de décrire convenablement ce qu'était le Caucase dans l'Antiquité. Vous aviez un très grand pays qui était l'Arménie. Et la question pour les Romains, c'était est-ce qu'il faut s'emparer de l'Arménie ou est-ce qu'il faut la laisser tranquille? Eh bien, sur la stèle d'Ankara, qui contient le testament du divin Auguste, Auguste dit « L'Arménie doit rester un État indépendant qui sépare Rome des Parthes et des Iraniens. Hein. » Donc c'est quelque chose qui est très important. L'Arménie va devenir un État satellite de Rome, d'une certaine façon, mais réellement indépendant.
Pour terminer sur cette géographie très singulière, vous disiez que donc, la population vit à plus de 1000 mètres d'altitude, ce qui est une situation, une géographie assez difficile. Mais à partir de quelle date observe-t-on les premiers habitants de la région ?
Alors, la région est peuplée depuis très longtemps. C'est-à-dire, si on prenait des vestiges archéologiques, on pourrait vous dire que depuis plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, il y a des populations autochtones du Caucase. Alors, ces populations autochtones, Georges Dumézil les appelait caucasiques. Et il les distinguait des populations caucasiennes. Caucasienne, ça veut dire toute population qui vient dans le Caucase, à une époque quelconque, mais d'un autre pays. Et alors, donc, la question, c'est de savoir si les Arméniens sont caucasiques ou caucasiens.
Et alors ?
Et alors, la réponse, les Arméniens soutiennent en général qu'ils sont caucasiques, qu'ils étaient là depuis tout le temps, hein, au moins depuis le temps de l'Arche de Noé, c'est-à-dire à une époque, en fait, mythologique, si vous voulez. Mais les linguistes européens disent que l'Arménien est une langue balkanique. Ça paraît extraordinaire, parce que les Balkans et le Caucase, c'est quand même assez loin. Une langue balkanique, ça veut dire indo-européenne, apparentée au grec, bien entendu,
l'albanais,
probablement aussi à des langues disparues, le phrygien et le thrace. Hein. Ça veut dire qu'ils ont dû, à un certain moment, quitter les Balkans pour traverser toute l'Asie mineure et passer l'Euphrate et arriver en Arménie. Eh bien, quand est-ce que ça a pu se passer ? La possibilité de traverser les Balkans, ça supposait de vaincre d'abord la puissance qui détenait la côte, qui gardait la côte ouest de l'Asie mineure. C'est donc après la chute de Troie, quand les Grecs se sont installés. Les Grecs, ils voulaient uniquement des comptoirs maritimes. Donc, ils se sont installés sur le littoral. Les populations thraco-phrygiennes qui étaient dans les Balkans, à l'intérieur. Elles cherchaient, c'était des éleveurs qui avaient besoin de montagnes. Donc, ils ont passé les détroits, les Grecs les ont laissés passer, ils se sont enfoncés vers l'intérieur, et à la fin du XIIe siècle, certains d'entre eux se sont établis au centre de l'Asie mineure pour fonder le royaume de Phrygie, et d'autres sont allés jusqu'à l'Euphrate. Et à l'Euphrate, ils se sont arrêtés, parce qu'il y avait déjà une confédération puissante de populations autochtones qui s'appelait Naïri. Hein. Et par la suite, à Naïri a succédé l'empire d'Urartu, qui a duré du 9e siècle avant jusqu'au 6e siècle après.
Donc pour résumer, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les ancêtres des Arméniens proviendraient donc des Balkans, de ces pays-là, l'Albanie, la Grèce, la Bulgarie. Ces mêmes ancêtres auraient aussi fondé cet État à proximité de l'Arménie actuelle, la Phrygie, c'est bien ça ?
Non, au centre de la Phrygie, c'est très loin, hein, c'est au centre de l'Asie mineure. Probablement, en 590, quand l'État d'Urartu s'est effondré, un certain nombre de montagnards arméniens, de proto-arméniens peut-être, ils n'étaient pas encore arméniens, puis ils n'étaient pas encore en Arménie, ont passé l'Euphrate et ils ont pris le pays qui était auparavant contrôlé par alors des gens qu'on appelait Urartiens, nous les appelons Urartiens, avec l'aide des Perses, en s'alliant à Cyrus le Perse, eh bien un certain Tigrane l'Ancien a conquis l'ancien état d'Urartu et ils se sont mélangés à la population précédente, qui était ourartienne. Donc, c'est un mélange, les Arméniens.
Vous venez d'évoquer la domination perse, parce qu'à l'époque, la Perse est donc dirigée par un empereur, qui est une grande figure du monde antique, c'est Cyrus le Grand. Il va conquérir donc, plusieurs territoires, dont l'Arménie, qui va connaître une longue période de domination. Quand est-ce que l'Arménie sort de cette période-là? Et surtout, à quel moment l'Arménie va connaître son apogée?
Alors, l'Arménie sort en effet dominée par les Perses, mais les Arméniens, finalement, se plaisent sous la domination perse. Il y a des mariages entre les princesses achéménides et les rois d'Arménie. Mais ils ont un très grand avantage, c'est qu'ils ont des mines d'argent en Arménie. Ils ont des mines d'or et d'argent, donc les Perses les ménagent un petit peu à cause de cela. Et évidemment, c'est quand Alexandre le Grand arrive, bat Darius III, Codoman, que les Arméniens font sécession et se proclament indépendants. Et ils n'écoutent pas les conventions ou les accords des Diadoques, les successeurs d'Alexandre, qui prétendent se partager, les Séleucides prétendent être rois en Arménie, ben, ils ont eu beaucoup de mal à s'y imposer et il se peut qu'ils n'y aient jamais réussi. En tout cas, un de leurs généraux, qui s'appelle Artaxias, en 188 avant Jésus-Christ, renverse les souverains. Il était chargé de punir les rois d'Arménie pour leur sécession. Il renverse en effet le roi d'Arménie, il s'appelait Oront IV, et il se proclame lui-même roi d'Arménie, ce qui n'était pas du tout prévu par les Séleucides. Et Rome, qui essaye à l'époque d'entrer en Asie mineure, reconnaît Artaxias comme roi d'Arménie. Alors, à partir du moment où Artaxias a une reconnaissance internationale, surtout la reconnaissance de Rome, eh bien, il peut prospérer. Le royaume d'Arménie va prospérer jusqu'à l'époque de Tigrane le Grand, c'est-à-dire au 1er siècle avant notre ère. Qu'est-ce qui est arrivé à Tigrane le Grand? Vous savez, il arrive quelquefois que des pays dépérissent parce qu'ils ont fait des conquêtes imprudentes, parce qu'ils ont voulu manger des morceaux trop grands, qui ne digèrent pas. Tigrane le Grand, il s'est emparé de la Syrie. La Syrie, c'est un pays qui est extraordinairement, d'abord très commercial, et ensuite très hellénisé, et donc avec une administration très formaliste. Et une fois qu'il est maître de la Syrie, Tigrane II le Grand voudrait organiser le même type d'administration dans la partie arménienne de son royaume. Et là, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que les gens ne veulent pas accepter ce type d'administration. Donc, ses fils complotent contre lui, les Romains en profitent et ils le renversent. Et donc, c'est Pompée qui oblige Tigrane à se reconnaître ami et allié du peuple romain. Il lui confisque la Syrie, bien entendu, et tous les territoires qu'il avait pris en plus, mais il lui laisse l'Arménie. L'Arménie de près de 400 000 km², ce qui en fait déjà un pays très important, et il lui laisse son titre de roi des rois.
Le pays est à ce moment-là, enfin l'Arménie est au maximum de sa superficie
Disons, le maximum de sa superficie, ça a été sous Tigrane, quand il avait la Syrie, mais au fond, c'était pas durable, ça a duré 15 ans, 20
Quelques
ans.
Quelques années.
Donc là, on peut dire que l'Arménie est au maximum de sa superficie, vers l'an 66 avant notre ère.
Comment il devient le premier pays à se christianiser de l'histoire, cette Arménie?
Alors, là, c'est beaucoup plus loin. On fait un saut
là, je me permets
jusqu'au 4e siècle, c'est-à-dire jusqu'au début des années 300. Alors, il faut se représenter que le christianisme s'est d'abord propagé d'une façon informelle. C'est-à-dire, il n'y avait aucune structure officielle pour accueillir, n'est-ce pas, le christianisme. Le christianisme, c'était en quelque sorte une marchandise orientale. Une marchandise orientale, il y avait différents divinités orientales, comme Mithra, comme Isis, etc., qui se répandaient un petit peu partout dans l'Empire romain. Ben, pourquoi pas Jésus-Christ, c'était un petit peu comme ça. Et donc, il y a eu certainement, au IIe siècle, tout près de la Syrie, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans l'Arménie du Sud, des gens qui étaient des missionnaires syriens et qui ont parlé de l'Arménie et qui se réclamaient de l'apôtre Thaddée. Donc il y a des infiltrations. Mais vous voyez, ces infiltrations, elles n'étaient pas du tout officielles. En revanche, l'histoire du roi Tiridate, on suppose 4, qui, à la fin du 3e et au début du 4e siècle, serait devenu personnellement chrétien, c'est plus solide, parce qu'on a des traces chronologiques tout à fait datables.
Ce serait ce roi-là, Tiridate IV?
Alors, ce roi, Tiridate IV, c'était un protégé de Rome. Mais ça ne veut pas dire qu'il était content d'être protégé de Rome. Il aspirait naturellement a retrouvé une indépendance totale. Et Rome s'est affaiblie d'un côté, c'est-à-dire le IIIe siècle, c'est vraiment un siècle de décadence pour Rome, à laquelle met fin l'empereur Dioclétien, au début du IVe siècle. Et à ce moment-là, l'empereur Dioclétien déclenche une persécution contre les chrétiens. Les chrétiens d'Asie mineure fuient en Arménie et l'empereur Dioclétien ordonne de les arrêter et de les exécuter. Là-dessus, 10 ans s'écoulent et de nouveau des persécutions ont lieu au temps de Maxime d'Aïa. Et donc, un chrétien de Césarée de Cappadoce, qui s'appelait Grégoire, et qui était d'origine arménienne, s'enfuit et va offrir ses services à Tiridate. Il devient l'ami du roi, mais à un moment, il est démasqué comme chrétien et il est jeté dans une fosse profonde. Dans cette fosse profonde, il y a des scorpions et des serpents venimeux. Donc, on n'y survit pas, normalement. Mais il est écrit dans l'Évangile que les disciples du Christ fouleront aux pieds les scorpions et les serpents. Et ça, le roi Tiridate ne le savait pas, mais les scorpions et les serpents le savaient. Donc, ils sont allés à toute vitesse, ils ont fui, et donc il a survécu 13 ans dans cette fosse. Voilà, enfin, je ne vais pas vous raconter toute cette histoire. Mais ce qui est vrai, c'est que le roi, à ce moment-là, il a interdit les cultes païens, il a démoli les temples, il a attribué tous les biens des prêtres païens, il les a attribués aux prêtres chrétiens, simplement pour qu'il n'y ait pas de vendetta entre les familles. Il a obligé les enfants des prêtres païens à devenir des prêtres chrétiens, hein, pour qu'ils héritent des biens de leur famille. Et il y a eu un représentant arménien au Concile de Nicée
en 325.
Mais
toutes ces histoires que vous racontez montrent que la christianisation ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Elle a mis un certain temps à...
Alors,
à
en effet, si vous voulez, le roi, il s'était dit, bon, bah, c'est très simple, on remplace, je ne sais pas, Aramazda ou Ramazda par le père de Jésus-Christ, et puis on ne change rien, surtout on ne change rien au reste du pays. Mais il ne se rendait pas compte que le christianisme, au fond, est une religion subversive qui impose des transformations profondes de la société. Et ces transformations profondes, ça a été l'invention de l'écriture qui a eu lieu 100 ans après, en 405, disons, pour pouvoir traduire la Bible et pour pouvoir la lire en langue arménienne dans les églises.
Avec un nouvel alphabet ?
Avec un nouvel alphabet. Alors, comme l'alphabet grec était absolument pestilentiel, puisqu'il avait servi à toutes sortes d'auteurs impies, à Homère, à Hésiode, à Épicure, à qui vous voulez. Les Arméniens ont voulu un alphabet donné par Dieu et ils l'ont demandé au saint moine Mashtots.
Je me permets d'avancer un petit peu dans le temps, parce qu'après l'apogée de ce royaume arménien, la région va enchaîner des périodes de domination, notamment la domination arabe.
Alors, pour le Caucase, la première incursion des Arabes, c'est 639.
Et les Arabes restent jusqu'à quelle période ? Quand finit
Alors,
cette
domination ? Alors, les Arabes, en fait, sont en pleine décadence au début du IXe siècle. C'est-à-dire le califat arabe est vraiment très malade. Donc, à partir du milieu du IXe siècle, les Arméniens leur infligent défaite sur défaite. Et le calife est obligé de reconnaître le prince arménien le plus puissant de l'époque, qui s'appelait Ashot Bagratouni, comme roi d'Arménie. Il lui donne le titre de roi.
Et c'est après cette période qu'arrive cette période qu'on pourrait qualifier de renaissance ? Renaissance arménienne ?
Alors,
plutôt autour de l'an 1000.
On est quand même au 9e siècle. Les monastères qui étaient complètement pillés par les Arabes, qui voulaient s'emparer de tous les biens d'église et de tous les trésors liturgiques, recommencent à exister, puisqu'il y a des rois. Ils vont doter les monastères, construire des églises pour avoir des messes funéraires. C'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'art arménien, c'est que le droit canon arménien interdit de dire la messe plus d'une fois par jour sur le même autel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences économiques de ça. Ça coûte très, très cher. Et les monastères se recréent. Et qui dit monastère dit culture écrite. Hein, et donc, renaissance culturelle, historique, littéraire. Et les rois eux-mêmes contribuent à cette renaissance en créant la capitale d'Ani, la ville aux mille églises, qui est aujourd'hui juste sur la frontière, à 40 km de Kars, hein, sur la frontière de la Turquie et de la République d'Arménie.
Et jusqu'à quand cette Ani restera-t-elle la capitale de cette Arménie ?
Eh bien, jusqu'à sa prise par les Seldjoukides en 1064. Alors, on sait qu'à cette époque, c'était les Byzantins qui s'étaient emparés d'Ani. Ils avaient renversé le roi arménien. Ils s'étaient emparés d'Ani et ils avaient une crise budgétaire extrêmement grave. Et donc, ils avaient décidé de confier la défense des villes frontalières au général qui présenterait la meilleure offre, c'est-à-dire le moins cher possible, pour payer les armes et les mercenaires. Et évidemment, c'est une méthode de marché public qui n'est pas très féconde pour l'administration des affaires.
L'Arménie, vous l'avez dit, a été sans cesse dominée, mise sous tutelle. On a parlé des Arabes, des Iraniens, des Turcs. Comment elle a fait, malgré tout, pour préserver cette culture, ces spécificités culturelles, pour résister à toutes ces invasions ?
Elle a difficilement résisté. Il y a tout un versant de la littérature arménienne qui représente l'Arménien errant, qui est le Kharib, qui est un pauvre type qui est obligé d'aller travailler à l'étranger, etc. Donc, il y a des souffrances, il y a des martyrs. L'Arménie est un pays de néo-martyrs. Hein, c'est-à-dire que vous avez des martyrs ininterrompus, hein, depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Ininterrompus et qui sont vénérés, connus, etc. Bon, néanmoins, la seule autorité qui était présente et dont même les régimes les plus tyranniques avaient besoin, c'était l'Église. Alors, les Arabes voulaient bien reconnaître la noblesse locale à condition que les nobles soient loyaux, ce qui était quelque chose d'assez difficile à obtenir. Mais l'Église, ils étaient obligés de discuter avec l'Église, d'autant plus que le Coran dit qu'il faut transformer les chrétiens en dhimmis, c'est-à-dire en protégés, s'ils s'inclinent et s'ils payent le tribut et la capitation. Deux impôts importants. Donc, ils ont gardé, grâce à l'Église, le chef de l'Église arménienne a été reconnu comme protecteur, on dirait protecteur de la cité, en quelque sorte, c'est-à-dire protecteur de la nation. Et il y a eu des accords entre les califes, etc. On raconte que le calife Omar a reçu Saint Jean d'Ozun, le catholicos arménien, et il y a eu un dialogue célèbre entre les deux. Le calife lui a dit « Comment se fait-il que, si Jésus-Christ était l'ami des pauvres, toi tu sois vêtu aussi somptueusement, avec plein de paillettes d'or dans ta barbe ?» Il a dit « Ordonne à tes serviteurs de sortir, je vais te montrer. » Et dès que les serviteurs sont sortis, il a fait un striptease sacré. Il a enlevé sa soutane et il est apparu qu'il était d'un corps maigre et portant les traces de la flagellation. Et Omar, dit la légende, lui aurait dit « Je t'accorde ce que tu veux ». Et il a dit « Pas de conversion forcée, pas de confiscation des biens d'église, mais des cadeaux de la part des ecclésialistes et autant d'églises que nous voudrons ». Voilà, à peu près l'explication. En réalité, cet accord a bien existé, mais il n'a pas été toujours bien observé.
En tout cas, on comprend bien que l'Église arménienne a contribué à maintenir une cohésion,
oui,
nationale.
Absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres spécificités culturelles ? Vous avez parlé de la langue arménienne. Il y a aussi une forte identité familiale qui a résisté.
La famille, c'est très, très important. C'est-à-dire que on habite normalement dans une seule maison. Il y a le grand-père et puis tous ses fils, toutes les épouses de ses fils et tous les petits-enfants, etc., etc. Alors, c'est très amusant quand on parle arménien, c'est que il y a des déclinaisons très compliquées pour les membres de la famille. Et il y a deux catégories de membres et deux catégories de déclinaisons. Les déclinaisons des gens qui restent à l'intérieur, c'est-à-dire le père, la mère, les frères. Les sœurs, elles sont faites pour aller dehors. Elles sont faites pour être mariées. Donc, elles ont une déclinaison différente. Et de même, les parents par alliance qui sont là, d'abord, ils ne sont qu'accidentellement là, hein, eh bien, eux aussi, ils ont la même déclinaison de l'extérieur. Je veux dire que Quand on est en Arménie, il faut savoir à peu près, si on veut vraiment comprendre ce que disent les gens, bien sûr, il faut savoir à peu près 70 mots de parenté pour s'y retrouver.
Au moins. Je voulais finir par quelques questions, toujours historiques. On n'a pas parlé de cette autre date majeure, 1375, qui signe donc l'effondrement de l'État arménien. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là ?
En fait, il faut remonter justement à la prise d'Ani. À ce moment-là, les Turcs Seldjoukides envahissent l'Asie mineure et les Arméniens se réfugient dans le sud de la péninsule d'Asie mineure, comment dire, en Cilicie. Là, ils fondent plusieurs principautés qui sont réunies en 1198 dans le royaume d'Arménie cilicienne. Et ce royaume se heurte peu à peu à toutes les puissances, les développements de puissances arabes en Égypte, en Syrie, etc. Notamment après Saladin, après l'effondrement des États croisés. Et il est complètement battu en 1375.
Et cet événement marque la fin du dernier royaume arménien indépendant.
C'est la fin jusqu'à...
Jusqu'à quelle époque ? Ça va durer très longtemps.
Jusqu'à quelle époque ? Jusqu'au XXe siècle.
Jusqu'au XXe siècle.
Il y a une république arménienne qui se crée après la guerre de 14-18, qui dure de 1918 à 1920. Et puis après, il y a l'indépendance de 1991.
Une période de domination qui va durer plusieurs siècles. On peut parler de résilience du peuple arménien face à toutes ces dominations ?
Oui, on peut parler de cela. Il faut dire qu'entre les deux, il y a quand même eu le génocide. Et que la mémoire du génocide est quelque chose de très, très important et qui, évidemment, donne aux Arméniens une cause à défendre.
Vous, à titre personnel, Jean-Pierre Maillet, quelles ont été les périodes historiques de l'Arménie qui vous ont le plus intéressé pour vos recherches ?
C'est le premier millénaire, c'est-à-dire la période proprement classique, l'invention de l'alphabet, l'histoire pré-chrétienne de l'Arménie, et puis également la période arabe, le dialogue impossible avec les musulmans.
Merci beaucoup Jean-Pierre May. La période est extrêmement riche, on l'a vu, c'est une très brève introduction à une partie de l'histoire de l'Arménie que vous venez de nous faire. Alors pour les auditeurs qui souhaiteraient creuser la question, nous mettrons sur la page de l'émission toutes les ressources nécessaires. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager, la commenter sur les plateformes de podcast et nos réseaux sociaux.
Les podcasts de l'Institut de France.